Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, des engagements, des questions, des écritures et des réécritures qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes et que je vous raconte en suivant l'ordre alphabétique. Avant de parler de la lettre d'aujourd'hui, voici les devinettes pour les belles têtes. Aujourd'hui, devinette express, oui, parce que je vais vous donner moi-même et immédiatement la réponse, c'est plus simple. Devinette, son nom est souvent associé à la langue française. Il n'avait rien d'un tartuffe ni d'un don juan, il n'était pas comédien malgré lui, bien au contraire, aucunement avare en rire et en acte, malade pour de vrai et pas dans son imaginaire. Allez, je m'arrête là pour les jeux de mots. Fini la comédie, vous avez bien entendu compris, il s'agit de Molière, notre Molière. Notre Molière qui fera l'objet d'un spectacle intitulé Molière insolite, un spectacle musical et littéraire qui aura lieu ce samedi 15 octobre à Saint-Leu-la-Forêt à l'initiative de l'association Point de Suspension. Un spectacle où je donnerai, comme dans ce rendez-vous conte, quelques anecdotes et faits souvent méconnus de la vie et des personnages de Molière. Mais ces informations littéraires et historiques viendront introduire ou préciser les extraits de pièces de Molière mises en voix et en musique par Thierry Leclerc. Thierry Leclerc qui se présente lui-même.
Bonjour, je suis Thierry Leclerc, comédien, chanteur. Je suis très heureux de participer à ce Molière insolite. Alors comment se présenter? C'est pas évident de se présenter. Je pourrais dire que j'ai joué dernièrement au Théâtre de la Huchette à Paris, dans la Cantatrice chauve de Ionesco, qui se joue depuis 1957, le rôle du pompier. Et sinon, actuellement, je tourne des spectacles en solo, des spectacles de chansons. Par exemple, musical et cabaret, chansons 1950 à 1970, L'amour retrouvé, les chansons de poètes, ce sont des poèmes qui ont été mis en musique par Ferré, Ferrat et tant d'autres. Les chansons de Prévert, donc les poèmes de cet auteur mis en musique par Joseph Cosma en règle générale, et quelques extraits de poèmes et de dialogues de films. J'ai aussi de Boris Avian, donc ça veut tout dire, et du Brouillard dans la tête également, un spectacle sur la santé mentale. Et je vous ai préparé quelques extraits du spectacle Molière insolite, avec quelques scènes de pièces de Molière, et chansons également. Eh oui, vous allez voir. Enfin, vous allez entendre plutôt.
Premier extrait, scène 5 de l'acte 1 du médecin malgré lui, 1666. Scannarelle est un bûcheron violent et alcoolique, il bat sa femme Martine. Alors, pour se venger, celle-ci le fait passer pour un médecin miraculeux, capable de guérir Lucinde, la fille du bourgeois Géronte. Lucinde, devenue, figurez-vous, subitement muette, le jour où son père lui annonçait qu'il voulait la marier à un homme qu'elle n'aime pas. Oui, des thèmes chers à Molière, dénonciation du, entre guillemets, patriarcat, même si on n'employait pas le mot à l'époque, parodie des pratiques médicales, dénonciation du charlatanisme, satire de la crédulité, critique de la religion, la totale, quoi. Alors, dans cette scène 5 de l'acte 1, se croyant seul, Sganarelle, joué sur scène par Molière, Sganarelle entonne la fameuse chanson dite de La Bouteille, dans laquelle il déclare son amour, non pas à sa femme, mais, devinez, à sa bouteille. Une chanson de Jean-Baptiste Lully, ouais, interprété par Thierry Leclerc.
Qu'ils sont doux, bouteilles jolies, qu'ils sont doux, vos petits glouglous. Mais mon sort ferait bien des jaloux si vous étiez toujours rempli. Ah, 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 bouteille mamie, pourquoi vous videz-vous? « qu'ils sont doux. Bouteilles jolies, qu'ils sont doux, vos petits glouglous. Mais mon sort ferait bien des jaloux si vous étiez toujours remplis. Ah, 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 bouteille mamie, pourquoi vous videz-vous ?
Chez Molière, comme souvent au théâtre ou dans les romans, le nom des personnages n'est pas anodin. Il éclaire leur personnalité, voire leur rôle dans l'action. Ainsi, sganarelle vient d'un verbe italien, sganare, qui signifie d'essayer, ouvrir les yeux, amener à voir ce que l'on ignore ou ce que l'on veut ignorer. Par exemple, dans Le médecin malgré lui, sganarelle fait comprendre aux spectateurs que les médecins de l'époque sont de faux savants, maîtrisant seulement le latin. C'est aussi lui qui découvre l'origine stratégique du soudain mutisme de Lucinde. Dans une autre pièce, Don Juan, sganarelle, incarnation d'une foi populaire et maladroite, permet à son maître, le grand seigneur méchant homme, Don Juan, de dévoiler ouvertement son athéisme et sa fausse conversion hypocrite à la religion. Deuxième extrait. Scène d'ouverture de la pièce Amphitryon. Comédie noire, pourrait-on dire, en trois actes, jouée pour la première fois en 1668. Une pièce inspirée du mythe gréco-romain selon lequel Jupiter tombe amoureux d'Alcmène. Alcmène, une humaine mariée à Amphitryon, roi de Thèbes, partie à la guerre, et auquel Alcmène est particulièrement fidèle. Alors, Jupiter prend l'apparence physique d'Amphitryon pour séduire sa femme et passer une nuit avec elle, enfin, une nuit qui durera en fait trois jours. Et de cette union naîtra Héraclès, Hercule quoi. Une histoire complète pour un prochain rendez-vous compte. Donc, depuis le champ de bataille, Amphitryon a chargé Sosie, son serviteur, d'annoncer à Alcmène, sa femme, qu'il rentrera bientôt de la guerre. Effrayé par la nuit noire, Sosie répète pour lui-même ce qu'il dira à Alcmène.
Je dois aux yeux d'Alcmène un portrait militaire du grand combat qui met nos ennemis à bas. Mais comment diantre le faire si je ne m'y trouvais pas ? N'importe, parlons-en et des stocks et de taille comme oculaire témoin. Combien de gens font-ils des récits de bataille dont ils se sont tenus loin ? Pour jouer mon rôle sans peine, je le veux un peu repasser. Voici la chambre où j'entre en courrier que l'on mène, et cette lanterne est Alcmène à qui je me dois adresser. Madame, Amphitryon, mon maître et votre époux. Bon, beau début. L'esprit toujours plein de vos charmes m'a voulu choisir entre tous pour vous donner avis du succès de ses armes et du désir qu'il a de se voir près de vous. Oh, vraiment, mon pauvre sosie, à te revoir, j'ai de la joie au cœur. Madame, ce m'est trop d'honneur et mon destin doit faire envie. Oh, bien répondu ça. Comment se porte Amphitryon ? Madame, en homme de courage, dans les occasions où la gloire l'engage. Oh, fort bien, belle conception. Quand viendra-t-il par son retour charmant rendre mon âme satisfaite ? Le plus tôt qu'il pourra, madame, assurément, mais bien plus tard que son cœur ne souhaite. Oh, mais quel est l'état où la guerre l'a mis ? Que dit-il ? Que fait-il ? Contente un peu mon âme ? Il dit moins qu'il ne fait, madame, et fait trembler les ennemis. Oh, peste, où prend mon esprit toutes ces gentillesses ? Que font les révoltés ? Dis-moi, quel est leur sort ? Ils n'ont pu résister, madame, à notre effort. Nous les avons taillés en pièces, mis Ptérélas, leur chef, à mort, pris Taleb d'assaut, et déjà dans le port, tout retentit de nos prouesses. Oh, quel succès ! Oh Dieu, qui l'eût pu jamais croire ? Raconte-moi, Sosie, un tel événement.
Sosie, serviteur d'Amphitryon, Sosie, un nom bien entendu indispensable à l'intrigue. Parce que dans la scène suivante, Sosie, le serviteur, arrive devant la demeure d'Alcmen. À la porte, surprise, son double, son Sosie, l'empêche d'entrer, affirmant que Sosie, c'est lui. En réalité, le Sosie en question, c'est Mercure, le messager et le complice de Jupiter qui a pris l'apparence de Sosie pour permettre évidemment au dieu métamorphosé en Amphitryon de ne pas être dérangé auprès d'Alcmen. Sosie insiste quand même pour entrer. Mais non, Sosie, c'est moi. Alors, Mercure le frappe et le force à fuir. Amphitryon, vous le voyez, le roi, et Sosie, le serviteur, sont donc égaux et victimes tous les deux de l'imposture des dieux, dépossédés en quelque sorte de leur propre rôle. Ce mythe, venu de l'Antiquité, a donné un nom commun. Un ou une Sosie, c'est une personne qui a une ressemblance parfaite avec une autre, sans être pour autant de la même famille. Quant à Amphitryon, il est également devenu un nom commun. Bon, moins commun, on va dire, parce qu'il désigne en langage un peu pédant une personne dont la table est bien garnie et accueillante aux invités. Amphitryon n'a-t-il pas, bien malgré lui, été fort accueillant en offrant, entre guillemets, sans le vouloir, sa femme Alcmen au dieu Jupiter ? Le bourgeois gentilhomme. Comédie ballet représentée pour la première fois par la troupe de Molière le 14 octobre 1670. Tenez, c'est pratiquement un anniversaire, le 14 octobre. Joué donc pour la première fois devant la cour du roi Louis XIV au château de Chambord. La musique est de Jean-Baptiste Lully. L'histoire, vous la connaissez, M. Jourdain est un riche bourgeois dont l'obsession est d'appartenir à la noblesse. Alors, pour y parvenir, il s'efforce d'acquérir les manières des gens de qualité en multipliant les leçons particulières de musique, de danse et de philosophie. Mais M. Jourdain refuse de donner sa fille Lucille en mariage à Cléonte, le jeune homme qu'elle aime, car il n'est pas gentilhomme. Figurez-vous que ce spectacle est très apprécié par Louis XIV, qui l'impose à ses courtisans plutôt hostiles. Il faut dire que les riches bourgeois, comme Jourdain, fraîchement anoblis, pouvaient concurrencer les gentilshommes sur le plan matériel. Ils étaient devenus beaucoup plus riches que ces courtisans ruinés, justement par le faste que leur imposait Louis XIV. Mais ces bourgeois fraîchement anoblis, il leur faut du temps pour se comporter comme de véritables nobles. À la cour, ils risquent constamment d'être ridiculisés et méprisés. Et le bourgeois gentilhomme constitue une belle illustration de ce racisme de classe, selon Gérard Noiriel, dans son Histoire populaire de la France. Dans la pièce, M. Jourdain, le bourgeois gentilhomme, est amoureux de la marquise d'Orimène, une veuve manipulée par Dorande, son amant, qui entend bien profiter de la naïveté de Jourdain. Tenez, dans la fameuse scène 4 de l'acte 2, Jourdain demande au maître de philosophie de l'aider à séduire la dite Dorimène.
Maître de philosophie, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds.
Fort bien.
Oh, cela sera galant, oui.
Sans doute.
Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire ?
Ah non, point de vers.
Vous ne voulez que de la prose ?
Ah non, je ne veux ni prose, ni vers.
Et il faut bien que ce soit l'un ou l'autre.
Et pourquoi ?
Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers.
Il n'y a que la prose ou les vers ?
Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose.
Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc cela ?
De la prose.
Quoi ? Quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit », c'est de la prose ?
Oui, monsieur.
Oh, par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en susse rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. maître de musique. On m'a appris un air tout à fait joli il y a quelque temps. Attendez, là, comment est-ce qu'il dit déjà? Il y a du mouton dedans. Ah oui!
Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle. Connaît le tigre au bois. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle. Connaît le tigre au bois.
Cléonte, le jeune homme amoureux aimé de Lucille, la fille de M. Jourdain, le bourgeois gentilhomme, Cléonte décide d'utiliser les rêves de noblesse de M. Jourdain et avec l'aide de son valet, il se fait passer pour le fils du grand turc, le sultan. Et il va nommer M. Jourdain Mamamouchi, grade de la plus haute noblesse orientale, soi-disant, lors d'une cérémonie turque burlesque. Alors, il obtient le consentement de Jourdain à son mariage avec Lucille. Mamamouchi. Il paraît que ce serait la déformation du turc, Baba Mouchir, une appellation flatteuse qu'on pourrait, disons, traduire par « père Pacha ». Mais savez-vous que le bourgeois gentilhomme est une farce avec un arrière-plan diplomatique? Ouais. À la première représentation, en 1670, les relations entre la France et l'Empire ottoman étaient tendues. Tiens donc, Louis XIV ayant apporté son aide aux Vénitiens, en Crète, contre les Turcs, donc bref, un conflit diplomatique. Alors furieux, le sultan turc Mehmet IV avait emprisonné l'ambassadeur français à Constantinople, avant de l'expulser et de dépêcher peu après un émissaire en signe d'apaisement. Mais la venue du diplomate de Constantinople et de sa suite, des hommes coiffés de turbans et vêtus de fourrure sur des chevaux dont les harnais étaient ornés de pierres précieuses, fut un événement à la cour de Louis XIV. Il marqua les esprits. Mais la rencontre avec leur roi a été émaillée d'incidents, tout simplement parce que Louis XIV ne possédait pas tout à fait bien l'étiquette, hein, le respect, les codes qu'il aurait fallu manifester à ses envoyés du sultan. Alors, incident diplomatique, Louis XIV aurait donc suggéré à Molière de se moquer des Turcs dans sa pièce « Le bourgeois gentilhomme ». Vengeance royale, rendez-vous compte. Le Misanthrope, 1666. Je vous rappelle rapidement l'intrigue. Alceste, le misanthrope, est l'humanité tout entière. Il dénonce l'hypocrisie générale de ses congénères, y compris Philinte, pourtant, en principe, son meilleur ami. Dans la scène 2 de l'acte 1, Oronte leur demande leur avis sur un sonnet de sa composition. Philinte dit par complaisance qu'il adore, qu'il est parfait. Mais Alceste n'apprécie pas et lui dit clairement que les chansons simples d'autrefois étaient bien supérieures à ce soi-disant sonnet.
Ne puis-je savoir ce que dans mon sonnet?
Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Vous vous êtes réglé sur de méchants modèles et vos expressions ne sont point naturelles. Ce n'est que jeu de mots, qu'affectation pure, et ce n'est point ainsi que parle la nature. Le méchant goût du siècle en cela me fait peur. Nos pères, tous grossiers, l'avaient beaucoup meilleur, et je prise bien moins tout ce que l'on admire qu'une vieille chanson que je m'en vais vous dire. La rime n'est pas riche et le style en est vieux. Vous verrez par vous-même que cela vaut bien mieux que ces colifichets dont le bon sens murmure et que la passion parle là toute pure. Voilà
ce que peut dire un cœur vraiment épris.
Si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, et qu'il m'eût fallu quitter l'amour de ma mie, j'aurais dit au roi Henri, reprenez votre Paris. J'aime mieux ma mie au gué, j'aime mieux ma mie, j'aime mieux ma mie au gué, j'aime mieux ma mie. Or le roi ne m'a pas donné Paris, sa grande ville, mais il m'a fallu quitter l'amour de ma mie. Et j'ai dit au roi Henri, laissez-moi mourir ici. J'ai perdu ma mie au gué, j'ai perdu ma mie, j'ai perdu ma mie au gué, j'ai perdu ma mie. Or le roi ne m'a pas donné Paris, sa grande ville, mais il m'a fallu quitter l'amour de ma mie. Et j'ai dit au roi Henri, laissez-moi mourir ici. J'ai perdu ma mie au gué, j'ai perdu ma mie, j'ai perdu ma mie au gué, j'ai perdu ma mie.
Détail amusant ou inconsciemment signifiant peut-être, le nom Alceste vient du grec Alcestis, une héroïne sauvée des enfers par Héraclès. À l'origine, c'était donc un prénom uniquement attribué aux petites filles. Alors, Alceste serait-il un être non-binaire, comme on dit désormais, refusant l'identité biologique masculine que lui aurait à tort attribué la nature? Rendez-vous. L'un des mythes tenaces attachés à Molière est qu'il serait mort sur la scène lors d'une représentation du malade imaginaire. En réalité, c'est à la suite d'un malaise sur scène qu'il fut conduit chez lui et qu'il mourut entouré de ses comédiens. L'émoi considérable provoqué par cette mort se reflète, entre autres, par cette belle épitaphe d'un certain Roger de Rabutin, comte de Bussy, connu sous le nom de Bussy-Rabutin.
Épitaphe par Roger de Rabutin, comte de Bussy, dit Bussy-Rabutin, 1618-1693. Passant, ici repose un qu'on dit être mort. Je ne sais s'il rit ou s'il dort. La maladie imaginaire ne peut pas l'avoir fait mourir. C'est un tour qu'il joue à plaisir, car il aimait à contrefaire. Quoi qu'il en soit, Sigy Molière. Comme il était comédien, pour un malade imaginaire, s'il fait le mort, il le fait bien.
Thierry Leclerc, en chanson, nous résume maintenant la vie de ce fils de tapissier, devenu Molière, le plus célèbre de nos artistes de théâtre.
Fils du tapissier s'appelle Jean-Baptiste, et il a décidé de devenir artiste au lieu d'être patron de quelques apprentis. Il sera simplement valet de comédie. Avec quelques copains commence l'aventure. Et tant pis si les planches des tréteaux sont dures. On a le ventre vide et on a le cœur plein. C'est toujours comme ça qu'on devient comédien. Il a choisi son nom de guerre, Molière. Mais ça peut coûter cher de faire des pirouettes. Ça mène quelquefois à la prison pour dette. Il en sort, il s'enfuit, direction le midi. C'est la vie de tournée, tragédie, comédie. Un jour entre deux scènes, il se met à écrire. Et voilà qu'on le joue, il se met à rire. Quand le rideau se lève, un soir sur l'étourdi, le public est heureux, le public applaudit. Et il le salue jusqu'à terre, Molière. C'est alors que monsieur, frère du roi, s'en mêle et revoit la Paris comme la vie est belle. Alceste et Harpagon, Scapin et ses amis ont la faveur des grands et l'amour des petits. Si du côté jardin on respire la gloire, on a du côté cour les peines et les déboires. Car il y a Tartuffe, Armande est trop jolie, cette mauvaise toux qui réveille la nuit. Et saint malade imaginaire, Molière. Un soir de février, on a mis en cachette, en terre non bénie, la pauvre marionnette. Mais Alceste est monté vers les cintres étoilés, où d'être comédien, on est la liberté. Ce fauteuil d'immortel que notre académie lui avait refusé pour cause de génie. Cela fait 300 ans qu'au théâtre français on le garde pourtant, mais depuis lors, jamais. Personne ne pose à son derrière, Molière. Sur ton fauteuil tricentenaire, Molière.
Au cours de sa longue tournée en province avant de triompher à Paris, Molière a séjourné avec bonheur à Pézenas, dans l'Hérault. Et selon la formule célèbre de Marcel Pagnol, si Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas. Alors, en cette année 2022, Pézenas célèbre bien entendu le 4e centenaire de la naissance de Molière, mais Pézenas célèbre également le centenaire de la naissance d'une autre célébrité, un chanteur né et enterré d'ailleurs à Pézenas, connu pour ses chansons à base de jeux de mots, à base de calembours, d'assonances et autres allitérations, Bobby Lapointe. Bobby Lapointe qui composera cette chanson, la misanthrope, clin d'œil à Molière, évidemment, que nous interprète Thierry Leclerc.
Moi, je connais un ami, il s'appelle Alceste. C'est son nom Alceste. Nous, on l'appelle Zantwop, c'est notre ami Zantwop. Bonjour la misanthrope. Quand il est à Saint-Ouop, il vit comme un ascète. Il sort jamais là-bas. Mais quand il est à Sète, il vit comme à Saint-Ouop. Toute la nuit, il sort. Il fait le tour des boîtes où l'on boit, où l'on danse. Il y en a plusieurs à Sète. Il cherche Célimène, sa doudou fiancée. A vu Célimène? Pas là. À la fin, il la trouve, il y dit ce qu'il pense. Il est pas content, tu sais. Il dit, fuyons ces boîtes de lait condensé.
Ainsi se termine notre rendez-vous compte consacré à la lettre M, M comme Molière, Molière insolite. Je vous donne rendez-vous pour retrouver Thierry Leclerc et moi-même à 17h ce samedi 15 octobre à la salle des arts créatifs de Saint-Leu-la-Forêt, juste en contrebas du marché, pour un spectacle organisé par l'association Point de Suspension. Compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delatte sur IDFM 98. À la semaine prochaine, même heure sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte.